Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
C'est ça, une tournée de 3 jours pour Narendra Modi en Palestine et dans le Golfe, avec une ambition, faire passer le message que l'Inde est un partenaire de choix pour l'avenir et politiquement assez souple. Bonjour Jean-Luc Racine.
Bonjour.
Merci d'être venu ici, directeur de recherche au CNRS, chercheur senior au think tank Asia Centre. Une visite intéressante à plus d'un titre. D'abord, la première d'un chef de gouvernement indien dans les territoires palestiniens, un geste de soutien politique donc évident dans le contexte, et puis à l'intérieur vient surtout à un moment où l'Inde monte en puissance sur la scène internationale avec ce discours d'ouverture de Narendra Modi à Davos. L'Inde également invité d'honneur au World Government Summit de Dubaï qui a eu lieu ce week-end. C'est donc un peu le retour de ce thème de India Shining avec une croissance autour de 8%. L'Inde se démarque et séduit de nouveau les investisseurs, une priorité pour Modi. Et puis il y a aussi une volonté plus continue de peser de plus en plus dans son espace régional, voire mondiale, elle dont la population de 1,3 milliard habitants va dépasser, dit-on, la Chine en 2024. Cette nouvelle Inde, comme le disait Modi encore l'année dernière, qui va voter aux législatives de l'année prochaine en 2019. Alors par ce mouvement à l'ouest, est-ce un moyen de se repositionner à l'est, de chercher des leviers de croissance? En tout cas, ça nous montre, Jean-Luc Racine, un BJP nationaliste, ce parti au pouvoir, très pragmatique politiquement sur la scène internationale.
Oui, il est plus pragmatique sur la scène internationale que sur la scène nationale, puisque ce qui se passe sur la scène nationale, avec un certain nombre d'incidents violents par les franges les plus radicales du mouvement nationaliste hindou, a eu des échos internationaux au fil de l'année 2017, mais n'a pas eu vraiment de conséquences sur l'ambition de Narendra Modi d'affirmer le poids de l'Inde, et puis surtout, parce que ça c'est une de ses priorités essentielles, d'essayer d'attirer les investissements étrangers. C'est la politique du « Make in India », « Venez fabriquer en Inde », et c'est un des éléments derrière sa tournée répétée, je dirais, dans les pays du Golfe. Narendra Modi est arrivé au pouvoir en mai 2014. Dès 2015, il a fait une tournée dans le Golfe, où il a resserré les liens entre l'Inde et le Conseil de coopération du Golfe. L'année suivante, il était en Arabie Saoudite, où il a été très bien reçu également. Là, évidemment, dans ce contexte, la décision d'aller à Ramallah relève d'une autre logique. Ça, c'est à la fois maintenir un lien très ancien entre l'Inde et la Palestine, puisque quand l'Organisation de libération de la Palestine s'est créée, Yasser Arafat était reçu quasiment comme un chef d'État à New Delhi.
Et en 1988, l'Inde a reconnu la Palestine.
Voilà. Et pour le reste, évidemment, entre-temps, il s'est passé quelque chose d'important dans la région, c'est-à-dire c'est le rapprochement entre l'Inde et Israël. Où était Narendra Modi il y a quelques semaines? Mais évidemment, les observateurs ont noté qu'il n'a pas choisi de faire dans le même voyage Tel Aviv et Ramallah, mais de déconnecter les deux.
Ce qui est rare, dit-on.
Ce qui est rare, et ce qui explique pourquoi, en fait, lui est arrivé à Ramallah par la Jordanie, en hélicoptère, mis à sa disposition par les Jordaniens, mais escorté aussi par des hélicoptères israéliens pour que dans une région un peu chaude, il n'y ait pas d'ennui.
Donc consensus maximal, dans une période, en plus on l'a vu ce week-end, de tensions graves quand même.
De tensions graves.
Quelles ambitions politiques ça peut révéler de l'Inde? Il y a eu une demande de Mahmoud Abbas de soutenir, que l'Inde soutienne un processus multilatéral.
Oui, il ne faut pas en attendre beaucoup de choses. Ce qui est important, je crois, pour comprendre ce qu'est la politique étrangère indienne, et dans ce cadre-là, Narendra Modi, quoi qu'il dise de ses prédécesseurs, ne s'en éloigne pas terriblement. Il a gommé Nehru de l'histoire, mais en réalité, on voit bien que ce qui s'appelait autrefois le non-alignement, un terme qui n'est plus vraiment employé, c'est devenu une espèce de diplomatie tous azimuts, très pragmatique. Et on l'a vu, donc, entre la visite de Modi En Israël, la visite de Netanyahou à New Delhi, Netanyahou vient de passer 6 jours en Inde, et tout ça, ça n'empêche pas de renouer le contact avec Mahmoud Abbas, qui était à New Delhi il n'y a pas très longtemps, du reste. Mais est-ce que l'Inde a les moyens de jouer un rôle diplomatique permettant une reprise du dialogue israélo-palestinien? Je ne vois pas quels atouts New Delhi aurait pour débloquer une situation qui est totalement bloquée par la colonisation.
Et alors, si on se reconcentre sur les enjeux plus régionaux, on va dire, il y a eu donc cette visite à tonalité très économique à Mohamed bin Zayed Al Nahyan, avec 5 accords de coopération signés, surtout un accord d'investissement indien, ce qui est rare dans une compagnie pétrolière. Qu'est-ce que ça marque, selon vous, un infléchissement? C'est Inde investisseuse, alors qu'elle est en demande d'investissement.
Oui, elle est en demande d'investissement, mais en même temps, bien sûr, dans le domaine si stratégique de l'énergie, il faut se rappeler que l'Inde est très déficitaire en énergie. Elle importe à peu près les 2/3 de son pétrole, et les 2/3 de ces 2/3 viennent du Moyen-Orient. Donc, l'Inde a fait avec les Émirats, ce qu'elle essaie de faire ailleurs, c'est-à-dire de prendre une part, fût-ce une petite part, dans les capitaux de compagnies énergétiques, parce que c'est un des points faibles. Et évidemment, avec la remontée des prix du pétrole et le déficit notable des finances indiennes, il y a une crainte à New Delhi qui est de voir ce déficit évidemment s'agrandir si les prix du pétrole remontaient considérablement.
Donc sécuriser un approvisionnement.
La visite à Oman va dans le même sens, puisque Oman, c'est un des fournisseurs de gaz essentiels. Mais en même temps, Oman est intéressant parce que il y a des accords de défense avec l'Inde, qui dispose d'une station d'écoute sur les côtes omanaises, c'est-à-dire en face des côtes pakistanaises.
Et si on parle précisément justement des enjeux un peu stratégiques dans la région, donc on a vu l'Inde, je le disais, première à ouvrir Davos, il y a également ce World Government Summit, et il y a ce dialogue Resina qui s'est tenu à un genre de forum régional fin janvier, où il a été beaucoup question de concepts comme l'Indo-Pacifique est une diplomatie des idées. Ça, c'était Sophie Boisseau-Durocher et Françoise Nicolas qui écrivaient un article là-dessus. Ça vous semble correspondre à une ambition réelle?
Oui, cette conférence organisée par l'Observer Research Foundation avec le ministère indien des Affaires étrangères existe depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on voit, c'est qu'elle monte en puissance. Elle a souvent des invités de qualité, chefs d'État, chefs de gouvernement. Et l'invité majeur cette année, c'était Netanyahou, précisément. Comme le monde est petit.
Qui était en visite à ce moment-là, oui.
Et en même temps, évidemment, les ambitions indiennes vont beaucoup plus loin. Il faut se rappeler que le grand tournant de 1991, qui voit à la fois, sous le gouvernement du Congrès, le début d'une politique, j'allais dire plus libérale, mais enfin libérale, relativement libérale, se mettre en place, donc, et en même temps le vieil allié soviétique disparaître de la carte. On a vu à ce moment-là se déployer une nouvelle stratégie diplomatique qui s'appelait la politique du regard vers l'Est, c'est-à-dire redécouvrir ce que la diplomatie indienne appelle son environnement élargi, en l'occurrence l'Asie du Sud-Est. Tout ça s'est véritablement élargi aujourd'hui, puisque vous l'avez dit, la formule clé de la diplomatie indienne aujourd'hui vis-à-vis de l'Asie, de ce qu'on appelait l'Asie Pacifique, c'est de l'appeler maintenant l'Indo-Pacifique, un concept australien sur lequel évidemment les Indiens se sont positionnés. Et ce qui se passe vis-à-vis du Moyen-Orient, ou en tout cas des États du Golfe, c'est un peu un rééquilibrage des ambitions indiennes régionales, à la fois à l'Est et à l'Ouest.
Repositionnement régional, mais pas encore contrôle de cet espace. On aura l'occasion aussi de reparler des élections à venir en 2019. En tout cas, merci beaucoup pour les explications.
Je vous en prie.
Aujourd'hui, Jean-Luc Racine, directeur de recherche CNRS, chercheur senior au think tank Asia Centre. Informations et vidéos sur la page et le site internet de France Culture. Le nouveau bouquet de podcast international, bien sûr. Et demain, nous parlerons de l'Irlande du Nord avec le changement de direction à la tête du Sinn Féin.